arrêt de 3 semaines. C'est beau, le reste. Hein. Alors, il y a beaucoup de poussière. Alors, on va reprendre, si vous voulez, pour qu'on puisse réactuer, parce qu'il faut tout le temps réactuer notre intelligence. Et c'est ça la difficulté, c'est de réactuer notre intelligence, tout le temps. Donc nous étions arrivés, si vous vous souvenez bien, en métaphysique, c'est-à-dire en philosophie première, dans cette recherche de ce qui est la réalité existante, nous-mêmes. Vous voyez, la métaphysique fait qu'on se regarde tout le temps, mais non pas du tout d'un point de vue psychologique, c'est d'un point de vue métaphysique. C'est-à-dire, en même temps qu'on se regarde, on se met au même niveau que tous les autres. Très humiliant. Mais c'est nous mettre dans la vérité. La métaphysique nous donne un regard de vérité profond qui fait que tout ce qui est en nous, un petit peu de montagne, de colline, toutes nos petites constructions, nos constructions de notre originalité propre qui se font si vite, tout ça, nous dépassons. Puisque nous regardons tout sous le point de vue de l'être. Alors, notre originalité sous le point de vue de l'être, regardez attentivement. Regardez attentivement ce que c'est que votre originalité sous le point de vue de l'être. Hein, et puis vous me direz ce que c'est. Votre originalité, chacun d'entre vous, votre originalité sous le point de vue de l'être. Pourquoi on n'aime pas la métaphysique aujourd'hui? Parce que la métaphysique nous oblige de regarder que notre originalité, notre petite construction que nous faisons, c'est un être de raison. Pas grand-chose, au niveau de la physique. C'est ce qui ne vient pas de nous qui est important. En premier lieu, tout repose là-dessus. Ce qui ne vient pas de nous. Donc ça nous met dans la vérité, l'humilité. C'est pour ça qu'un Nietzsche refuse la métaphysique. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas loin de Nietzsche. On n'est pas loin. Et on reçoit les éclaboussures. Et alors, de fait, il a horreur de la métaphysique. Pourquoi? Parce que la métaphysique nous oblige de dire que ce que nous voyons n'est pas ce qu'est de plus profond. Alors que Nietzsche voudrait dire que c'est ce que nous voyons qu'il y a de plus profond. Ce que nous construisons, ce que nous faisons, notre créativité, puisque le mot vient de Nietzsche, il ne faut pas l'oublier, notre créativité liturgique, notre créativité au niveau intellectuel, notre créativité au niveau de tout ça, c'est ce qu'il y a de premier pour lui. C'est la chose première. Alors quand on dit « Ah non, non, c'est pas premier. » Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Au-delà de notre créativité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre recherche de la vérité. Et au-delà de notre recherche de la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre capacité d'aimer. Notre capacité d'aimer n'est pas notre créativité. Notre capacité d'aimer, c'est de retrouver ce qui est capable de nous attirer, le bien. Le bien, nous ne l'avons pas fait. Vous êtes incapable, hein, incapable de réaliser une réalité qui soit la bonté. Vous pouvez faire des actes qui sont bons, mais pas plus. Et des actes qui sont bons, ils sont relatifs à une bonté. Sont relatifs à une finalité. Oui, vous posez des actes bons, mais les actes bons, c'est jamais premier. C'est toujours dépendant d'autre chose. Alors, tout le regard métaphysique, vous voyez, c'est ça qu'il faut revenir tout le temps, hein, au jugement d'existence. Hein. Comprenez bien, ceci est, je suis. avant de penser, avant de cogiter, je suis. Et ce qui est plus profond en moi, l'esprit qui existe. Ce qui est plus profond en moi, l'esprit qui existe. Mon esprit n'est pas mon exister. Je voudrais bien ça. Hein. Ce serait bien commode de dire que mon esprit, c'est mon exister. Eh bien non. Avant que vous pensiez, vous existiez. C'est curieux. Mais c'est comme ça. Vous existiez avant de penser. Et il y avait d'autres personnes qui existaient avant que vous pensiez. Le monde existait avant que vous pensiez. Vous l'avez découvert, c'est déjà pas si mal. Et vous l'avez aimé, ce qui est encore mieux. Mais le monde existait avant. Le jugement d'existence, c'est de reconnaître qu'il y a avant tout ce qui est. C'est difficile et il faut le redire aujourd'hui. Hein. Il faut le redire aujourd'hui, il faut le reprendre aujourd'hui. Je vous dis depuis Nietzsche. Hein. Ce n'est pas commode de lutter contre un Nietzsche, parce que Nietzsche, il séduit. Et alors on est pris par cette séduction. On est pris par cette séduction, je vous l'ai déjà dit. Hein. N'oubliez jamais. Les deux grandes oppositions de Nietzsche à l'égard de la pensée chrétienne, la métaphysique et la compassion. Alors, si on est un tout petit peu averti et intelligent, on doit se dire, pourquoi ces deux grandes oppositions? Métaphysique, on comprend tout de suite. C'est parce que Nietzsche ne tolère pas qu'on relativise ce qui nous est donné dans l'ordre sensible, ce que nous sommes capables de réaliser. Dans l'ordre sensible, l'homme est capable de réaliser une forme plus parfaite que celle qu'il voit. Ça, c'est vrai. C'est propre, justement, du domaine esthétique. Et le domaine esthétique a une plus-value que le domaine naturel. Le domaine esthétique, c'est ce que l'homme est capable de réaliser. Quand il réalise une statue, quand il réalise une œuvre architecturale, quand il réalise une peinture, il réalise quelque chose qui a plus d'éclat, qui a une forme plus parfaite que la matière dont il se sert. Bien évidemment. Autrement, il ne réaliserait pas d'œuvre d'art. S'il réalise une œuvre d'art, c'est qu'il est convaincu qu'il a quelque chose à réaliser à travers cette matière. Et quelque chose de plus que cette matière nous dit, que cette matière naît. Et c'est pour ça que si je mets le sensible au-dessus de tout, je mets la créativité au-dessus de tout. Il y a un lien entre les deux. Alors on comprend très bien cette espèce de fureur qu'il a. Et il faut la sentir, ça. Parce que si on ne la sent pas, on risque de ne pas y répondre. Cette fureur qu'il a de la métaphysique qui veut découvrir l'être dans ce qu'il a de premier. La métaphysique, ce n'est pas autre chose que ça. Découvrir l'être dans ce qu'il a de premier. C'est dans ce sens-là qu'il y a une recherche scientifique. Le savant recherche toujours le noyau le plus fondamental, hein, à la différence de l'homme qui décrit simplement. Un vrai savant dépasse toujours la description. Il analyse. Pour saisir ce qu'il y a de premier. Il faut saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Alors, pour Nietzsche, c'est effrayant, parce que saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, c'est la destruction du domaine sensible. Vous détruisez le sensible en dépassant le sensible. C'est vrai qu'en dépassant le sensible, je montre que la créativité n'est pas première dans l'ordre. Il y a la recherche de la vérité et aimer. Donc ça, il faut en saisir la profondeur, hein, et le saisir mais dans notre propre expérience. Hein, si vous ne saisissez pas ça dans votre propre expérience, vous ne savez pas répondre. Vous avez l'expérience extérieure qui est d'ordre sensible, vous avez les expériences intérieures de la recherche de la vérité et de l'amour, et de la contemplation. Et la contemplation fait le lien entre la vérité et l'amour. Alors, c'est important de saisir ça. Nous avons donc cette expérience intérieure. Je ne fais pas fonder ma philosophie sur l'expérience intérieure, mais l'expérience intérieure existe. Et une philosophie doit pouvoir y répondre. Et l'opposition de Nietzsche par rapport à la compassion, alors là, on touche un domaine religieux, un domaine de foi, c'est qu'il ne peut pas tolérer que l'attitude dominante de l'amour soit la réceptivité. Il veut encore une créativité dans l'amour. Et en voulant une créativité dans l'amour, il tue l'amour. L'amour n'est pas premièrement créatif. Ce n'est pas ce qu'on dit de l'amour qui est l'amour. Le philosophe doit s'humilier, vous voyez. Ce n'est pas ce que le philosophe dit de l'amour qui est l'amour. Et le philosophe le sait. Mais le philosophe aide à vivre de l'amour en disant ce que l'amour. Ce n'est pas en chantant l'amour qu'on aime. C'est en aimant qu'on chante bien l'amour. Mais ce n'est pas ce qu'on dit, ce qu'on chante, qu'est l'amour. Non, l'amour est autre chose que le chant. L'amour est autre chose que l'expression. L'amour est plus profond, il va au-delà. Et alors quand vous bloquez créativité et amour, vous bloquez les deux. À ce moment-là, au bout d'un certain temps, vous étouffez l'amour. L'amour réclame le silence. L'amour demande le silence. L'amour n'est pas dans le bruit. L'amour n'est pas dans la créativité, si sublime qu'elle soit. L'amour est au-delà. L'amour est sous de tout cela. Donc il est au-delà. Mais c'est ça que Nietzsche ne peut pas accepter. Mais c'est très très important parce que, et ça Heidegger a très bien compris, hein, qu'avec Nietzsche, on touche le point terminal de toute la recherche philosophique occidentale. Très très curieux de voir ça. Mais ce serait très intéressant à étudier de plus près. Mais je crois qu'il a très très bien senti qu'il y avait comme là quelque chose qui allait très très loin. Regardez, de Descartes à Nietzsche. Ça, on peut le faire assez facilement. Et bien, vous voyez que ça dégringole, jusque là. Et alors, quand on est dans Nietzsche, si on veut sauver l'intelligence, si on veut sauver l'amour, et on sauve l'intelligence pour sauver l'amour, hein. Il ne faut jamais l'oublier. Je ne sauve pas l'intelligence pour le plaisir de sauver l'intelligence, donc ce serait déjà beau. Hein. Parce que c'est la recherche de la vérité, il y a quand même quelque chose d'absolu. Mais je cherche à sauver l'intelligence pour sauver l'amour, parce que le cœur de l'homme a besoin d'aimer. Parce que le cœur de l'homme, il est fait pour aimer. Parce que le cœur de l'homme n'est parfaitement lui-même que quand il aime. Et l'homme n'est vraiment lui-même que quand il aime. Alors, à ce moment-là, si je mets la créativité au-dessus de tout, eh bien, je tue la recherche de la vérité, la recherche de l'intelligence, la recherche de l'amour. Et c'est curieux, hein, les deux aspects d'opposition de Nietzsche par rapport à la métaphysique et par rapport à la compassion, vous voyez bien, c'est l'être et le bien. Tout simplement. Il refuse les deux. Il refuse les deux. Et c'est très fort d'avoir vu ça. Hein. C'est très astucieux, vous savez. Ça rejoint une intuition très profonde de saint Thomas. C'est intéressant de voir comment Nietzsche rejoint une intuition de saint Thomas. Ça rejoint une intuition très forte de saint Thomas, au cœur de toute la réflexion de saint Thomas, vous savez bien, c'est de savoir si la ratio entis est première par rapport à la ratio opposée. C'est-à-dire, quels sont les rapports entre ce qui est et le bien. Je crois que c'est là où on touche ce qui a été la recherche fondamentale de saint Thomas. Il fallait écrire l'originalité de saint Thomas. Qu'est-ce qui a été l'impulsion profonde de saint Thomas, c'est essayer de découvrir le lien entre art et deux grands maîtres, ces deux sur lesquels il s'est appuyé tout le temps, Aristote et Saint-Augustin. S'il revient à Aristote, c'est pour savoir ce qui est. Et Saint-Augustin lui est donné par la tradition chrétienne. Et Saint-Augustin nous montre le primat de Dieu. Alors on comprend que Saint Thomas est entre les deux, hein, c'est pas commode. Mais schizophrénie, hein, on voit très bien, on se divise en deux. Alors il y a d'une part l'intelligence, d'autre part la volonté. C'est insupportable. Il faut unir les deux. Il ne faut pas des gens qui sont intelligents, des gens qui sont sans amour. Il ne faut pas des gens qui sont avec amour sans intelligence. Les deux sont insupportables. Absolument, les deux sont insupportables. Alors on comprend que saint Thomas, qui a saisi ça, veut à tout prix sauver le primat de l'être et sauver le primat du bien. Ah, ça c'est astucieux. Je vous donnerai ça comme problème. Vous chercheriez. Comment sauver le primat de l'être? Comment sauver le primat du bien? Vous savez, c'est exactement les mêmes problèmes d'aujourd'hui. Hein. Nous savons bien. C'est exactement les mêmes problèmes. Nous vivons exactement ce même problème d'aujourd'hui. Alors, il y en a qui optent. Dieu est amour. Il n'est pas l'être. Et en face, la vieille scolastique, avec les gros chars d'assaut, Dieu est immobile. Alors, vous voyez ça, c'est en vrai. L'intelligence. Alors, ça, c'est... Non, c'est pas ça. Il faut découvrir aujourd'hui un regard qui répond à la vérité. À la vérité. Dieu, il est et il est amour. Et l'Écriture le dit, les deux grandes révélations de Dieu. Dieu, il est. Traduisez pas, il devient. Ça, c'est un petit peu Héraclite qui passe là-dessus. Hein, ou d'autres. Hein. Les deux sommets de la révélation. Moïse et le Christ crucifié. Moïse, il est. Tout le point de vue de Moïse comme législateur, il ne faut pas l'oublier. Moïse, législateur. Kant, législateur. Hein, l'intelligence, il est. Le législateur, il s'appuie sur l'être. Jésus crucifié. C'est l'au-delà de la loi, le dépassement de la loi. Il est crucifié parce qu'on a dit qu'il n'observait pas la loi. Parce qu'il l'a dépassée par l'amour. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est un surêtre. Vous voyez, ça c'est une manière très élégante. Mais ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Parce que dire un surêtre, ça veut dire qu'on laisse de côté l'être. On laisse de côté le législateur et puis on tombe dans l'anarchie de l'amour. C'est pas ça. C'est pas l'unité des deux. Ça, c'est pour vous montrer que toujours, c'est toujours le même problème dans lequel on se trouve. Tout le temps. Et c'est quand même très important de voir qu'à notre époque, nous revivons cela avec acuité. Donc il s'agit de réfléchir, d'y répondre et d'y répondre avec intelligence. Il ne s'agit pas simplement d'escamoter, moi je suis Tommy, je réponds comme saint Thomas. Ça ne signifie rien. Vous savez bien, saint Thomas lui-même condamnerait. Saint Thomas dit que la dernière des raisons en philosophie, c'est l'autorité. Alors quand vous ne savez plus quoi dire, vous dites saint Thomas a dit. Autre chose est de regarder ce que saint Thomas dit et de le comprendre. Hein. Ça c'est autre chose. Mais s'appuyer uniquement sur l'autorité. En disant saint Thomas a fait la solution, je n'ai qu'à la répéter. Non, il faut la retrouver dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut la retrouver à travers notre monde aujourd'hui. Vous voyez, avec Nietzsche d'un côté, et puis Heidegger de l'autre, ce qui n'est pas commode, ce qui est intéressant du reste, savoir tout l'héritage de ces gens-là, et puis essayer de retrouver profondément pour nous, redécouvrir le temps profondément pour nous, dans une vraie philosophie première, le lien entre l'être et l'amour, entre l'être. Vous savez, je vous rappelle ici comment saint Thomas donne la solution du primat de l'être et du primat du bien. Le primat de l'être, c'est dans l'ordre de l'intelligibilité. Et le primat du bien, c'est dans l'ordre de la causalité. C'est intéressant. C'est très astucieux. Causalité finale. La cause des causes, c'est la fin. Et le bien fonde la fin. L'intelligibilité, propriété de l'être, pas propriété du bien. Et donc c'est pour ça que dans l'ordre de l'intelligibilité, donc dans l'ordre de la science, l'être est premier. Dans l'ordre de la vie spirituelle, l'esprit, le bien, parce que l'esprit demande le bien, l'esprit crée. Oui, c'est curieux, et on trouve très bien ces deux choses-là. Dans l'ordre de la science, l'intelligibilité première. Dans l'ordre de l'esprit, de la vie spirituelle, alors le bien est premier. C'est évident que dans notre vie d'esprit, bien est premier. Et je découvre parfaitement la signification de l'être qu'en voyant le bien. Et je découvre parfaitement ce que c'est le bien qu'en regardant l'être. Il y a quelque chose de relatif. Il n'y a pas une priorité absolue. Il n'y a pas une priorité absolue en disant l'être est premier et donc le bien est après. Vous savez, alors le thomisme farouche en disant c'est l'intelligence qui est première. Saint Bonaventure n'a rien compris. Non, pas du tout. Saint Bonaventure, c'est le bien. Saint Thomas, c'est l'être et le bien. Saint Bonaventure, c'est le bien. Et c'est vrai que si je commence par le bien, que j'essaie de réfléchir sur le bien, savoir suffisamment ce que c'est que l'être, je ne vois plus assez bien. L'être sauvegarde le bien et le bien finalise. Ceci, c'est pour vous rappeler pourquoi nous faisons de la métaphysique. Hein. Au début, d'un trimestre, c'est toujours important, parce qu'il s'agit de réchauffer les accus, de les charger. Alors, c'est la finalité. Pourquoi faisons-nous de la métaphysique? C'est pour répondre à Nietzsche. Vous ne pouvez pas répondre à Nietzsche si vous ne faites pas de métaphysique. Et une métaphysique de ce qui est impossible. C'est pour avec Heidegger, c'est sûr, puisqu'il répond à Nietzsche, à sa manière. Mais plus profondément, c'est pour sauver ce qu'est la personne humaine. C'est pour découvrir la dimension profonde de la personne humaine. Découvrir la dimension profonde de la personne humaine, c'est découvrir le sens de la recherche de la vérité. Et c'est découvrir surtout il y a en nous, dans notre esprit, une double orientation. La recherche de la vérité, la capacité d'aimer. Et c'est ces deux qui sont absolument nécessaires. C'est ça la personne humaine. La personne humaine implique les deux. C'est la découverte de l'esprit. C'est difficile de découvrir ce que c'est que l'esprit. Ce n'est pas commode du tout. Parce que c'est pas commode de découvrir ce que c'est que l'esprit. L'esprit qui est en nous. Je ne le vois pas, l'esprit. Je ne le touche pas. Je ne peux pas le jauger, c'est tellement plus commode. Alors, on jaugerait tout de suite au niveau de l'esprit. Hein. Alors, si on a quelqu'un qui a un esprit en dessous du niveau de la mer, on dit, celui-là, il est bon à dormir toute la journée. Hein. C'est tout, c'est la meilleure des choses qu'il fasse, c'est de dormir toute la journée. Parce qu'il n'y a rien de spirituel en lui. En chacun d'entre nous, il y a des choses de spirituel qu'il faut essayer de découvrir. Alors, la découverte de la capacité d'aimer, la découverte de la capacité de la recherche de la vérité. Si on a les deux, tant mieux. Si on n'en a qu'un en acte maintenant, éveillons l'autre. On a tous l'un ou l'autre. Ça, c'est bien évident. On a tous l'un ou l'autre. Alors, il faut que l'un réveille l'autre. C'est mutuel. C'est là, on voit que c'est difficile d'entrer dans la métaphysique. Parce que vous entrez dans la métaphysique ou avec un souci de recherche de vérité. Ou vous rentrez dans la métaphysique par amour de l'homme. pour sauver l'autonomie de l'homme. Et c'est la métaphysique, la recherche de ce qui est, qui sauve l'autonomie de l'homme. Donc, il y a deux aspects sous lesquels vous faites la métaphysique. Ou par amour pour l'homme, si vous êtes avant tout quelqu'un capable d'aimer. Ou si vous avez déjà compris ce que c'est que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, l'esprit lié à l'intelligence, la recherche de la vérité, alors vous voulez aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Et pour aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité, vous faites de la métaphysique. C'est normal. Vous faites une philosophie première, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout de cette recherche de la vérité. Alors, nous avons vu que rechercher ce qu'il y a de premier dans ce qui est, c'est de répondre à la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et c'est très important, je vous l'ai dit, je le redis, parce que ceci c'est capital, c'est très important de comprendre le rôle de l'interrogation. Heidegger l'a très mis en relief, de Socrate à Heidegger. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. Heidegger, à sa façon, est le philosophe de l'interrogation. C'est ce que Merleau-Ponty a bien compris à l'égard de Heidegger quand il dit « l'idéaliste n'interroge plus ». C'est une parole merveilleuse, ça, de Merleau-Ponty. L'idéaliste n'interroge plus. Si vous êtes à la recherche de la réalité, vous interrogez tout. Parce que la réalité contient toujours quelque chose que vous ne comprenez pas. La réalité, c'est vous. Hein. Il y a en vous toujours quelque chose que vous ne comprenez pas. Tous les jours, vous vous découvrez un peu plus. Un peu plus. Vous vous colonisez un peu plus. Hein. Parce que l'animal sauvage qui est en vous, hein, il est puissant. Il est puissant. Il y a un vieil atavisme. Très, très. C'est pour ça que Merleau-Ponty parle de l'être sauvage. Il dit que la métaphysique regarde l'être sauvage. C'est très très joli comme expression. Parce que ça montre qu'il y a toujours une interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être sauvage? En chacun d'entre nous. Il y a un être cultivé, colonisé. Il y a un être en nous, un être qui habituel. Je ne me pose plus de problèmes. C'est très très bien. Maintenant j'ai compris. J'ai compris le système. C'est très très bien. Oui, ça c'est colonisé. Alors, il n'y a plus aucun intérêt. Il faut redécouvrir l'être sauvage. Et redécouvrir l'être sauvage, c'est découvrir la source. La source. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, ça, c'est très, très important. L'interrogation maintient mon intelligence en ferveur. L'interrogation maintient mon intelligence en haleine. L'interrogation, au dire de Platon, c'est l'attitude du chien de chasse qui est en face d'un fourré et qui est en arrêt. Il y a du gibier là. C'est beau de voir un chien de chasse en arrêt. C'est moins drôle de voir le dragon en arrêt devant la femme, mais c'est analogue. C'est analogue. Toute tentation est une interrogation. Au Moyen-Âge, on mettait toujours en parallèle les deux. C'est très joli, du reste. Le chien chasse en arrêt devant le gibier et le dragon en arrêt devant la femme. Le tentateur est celui qui veut découvrir. Alors, il interroge. L'intelligence, quand elle interroge, est une intelligence qui veut aller plus loin, qui ne veut pas s'arrêter. C'est pour ça que c'est le symbolisme de l'arc tendu. Quand j'interroge, je suis un arc tendu. C'est vrai, quand l'arc n'est pas tendu, hein, vous mettez une flèche, vous savez où elle va tomber. Hein. Tandis que quand l'arc est tendu, vous pouvez l'orienter. Une intelligence qui interroge est une intelligence qui va pouvoir être capable de saisir où est le gibier. Une intelligence qui n'interroge plus, elle descend le fleuve, elle a la spiritualité de la planche. N'est-ce pas? Alors, une intelligence qui descend le fleuve, qui n'est plus tendue, et une intelligence qui ne saisit rien. Pourquoi il y a des gens qui saisissent et pourquoi il y a des gens qui ne saisissent rien? Ils n'ont jamais rien saisi dans leur vie. Jamais rien. Ils n'ont pas eu le courage de tendre l'arc. Alors ils sont restés assis dans un bain de soleil, complètement. Alors ils sont assis. Ils ne découvrent rien. Sauf s'ils sont un peu piqués par derrière. Alors à ce moment-là, ils commencent à réagir. Mais vous voyez, il faut les attaquer. Hein. Si on ne les attaque pas, ils resteraient là indéfiniment. Ça, c'est la spiritualité de la descente du fleuve, selon Peggy. Hein, vous savez bien. Il faut un arc tendu, il remonte à la surface. Il remonte à la source. Un arc tendu, il veut découvrir. Et quand mon intelligence est tendue, mon intelligence découvre. Chacun d'entre nous, nous découvrons si nous sommes une intelligence tendue. Alors comment mon intelligence se tend? Par l'amour de la vérité. Et si votre amour de la vérité est très grand, vous pouvez y aller. Si votre amour d'intelligence est petit, ça n'ira pas très loin. Oui, ça fera une petite courbe. Un mètre, pas plus. Si votre intelligence est tendue, elle atteint la cible. Et si votre intelligence est bien tendue et bien ordonnée, ça atteint ce qu'il faut atteindre. Curieux, ça, c'est très curieux. Il faut faire l'expérience de ça. Hein. Parce que si on ne fait pas l'expérience de ça, vous faites l'expérience de ça quand vous faites un petit mémoire de licence. Quand vous faites une petite dissertation pour un séminaire. Alors que si l'arc est bien tendu, vous touchez la pointe. Si l'arc n'est pas tendu, on ramasse. Si l'arc est tendu, ah, quelque chose qu'on a saisi, et qu'on a bien saisi. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, après une stratégie assez difficile, on découvre que ce qui est en premier lieu l'ousia, ce que les Grecs appellent. Heidegger n'hésite pas de le faire. Pourquoi pas le faire? Parce que si je dis substance, tout le monde va se mettre à bailler. Non, mais c'est périmée la substance, c'est pas étonnant. Elle est latine. Alors elle est périmée, c'est bien évident. Revenez au grec. Alors les gens commencent à s'intéresser. Il y a deux sources. Les Grecs et l'Inde. Alors là, les gens commencent à ouvrir leur cœur et leur intelligence. Là, si vous pouvez dire en sanskrit, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. C'est l'ousia en sanskrit. Là, on sera obligé de redécouvrir là, quelque chose de très radical, très profond. Il faut être attentif à ça. C'est comme ça, notre monde est fait comme ça. Je comprends très bien qu'il est fait comme ça. Et c'est pour ça que j'aime mieux dire ousia que substance. Je n'aime pas beaucoup dire substance. Parce que ça sonne mal. Le mot substance est un mort-né. Il est mort-né, substance. Les latins, de temps en temps, pouvaient des mort-nés. C'est logique, juridique. Alors, ils pouvaient des mort-nés. Parce que substance est un mort-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Substance, substare, ce qui se tient en dessous. Ici en dessous, c'est un mort-né. Hein. C'était en dessous. Il y a des gens enterrés. C'est substance. Ce qui se tient en dessous, qu'est-ce que c'est que la substance? C'est le sujet. C'est le sujet. Le sujet, c'est ce qui se tient en dessous. Ce qui supporte tout. Or, l'ousia, c'est pas ça du tout. L'ousia, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de ce qui est. Alors, le sujet n'est jamais premier dans l'ordre de ce qui est. C'est pour ça que quand vous prenez substance, au point de l'étymologique, si vous êtes sensible à l'étymologie, c'est un mort-né. Ça ne va pas. C'est pas commode, hein, de charrier des mort-nés. Parce qu'au bout d'un certain temps, il y a un fait d'être. Hein. Alors, c'est quand même... Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, le mort-né, c'est sujet. C'est un cadavre. C'est vrai, un sujet. Tandis que si vous reprenez Ousia, d'abord, vous devez faire un petit effort, parce que ça ne vous dit rien du tout. Il vaut mieux quelque chose de complètement neutre qui ne vous dise rien, parce que vous êtes obligé de dire, Ousia, ça vient de quoi? Ah oui, Ousia, c'est un mot grec. Ricoeur l'a traduit étance. Je veux bien, j'aime pas beaucoup non plus, j'aime mieux laisser Ousia étance. Mais c'est quand même mieux que substantia. Et ça, c'est la traduction littérale. Étance, c'est lié à être. Étance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'être qui demeure. On est stabilisé dans l'être. On fait le vœu de stabilité dans l'être. C'est ça la substance. Elle fait le vœu de stabilité dans l'être. Elle est bien fixée. Elle est fixée. C'est le roc. C'est ça la substance. Platon l'avait dit admirablement, vous savez bien. Platon, il est tout proche du mythe. Alors il rajeunit tout. Et Platon dit que Ousia, c'est la déesse Hestia. Et la déesse Hestia, c'est ce qui demeure. C'est vrai, c'est ce qui demeure. Et alors évidemment, il y a une petite parenté avec sujet, vous voyez. C'est là où on voit que substance n'est pas complètement idiote. Parce que le sujet, c'est ce qui demeure. Il y a différentes manières de demeurer, en dessous ou par-dessus. Si vous demeurez en dessous, alors, substance. Si vous demeurez par-dessus, c'est ce qui détermine. L'ousia, c'est source de toutes les déterminations. C'est la détermination fondamentale. Ah, à ce moment-là, vous commencez à découvrir. La substance, c'est la détermination fondamentale. La source de toutes les déterminations. C'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la détermination. C'est donc le principe selon la forme. Alors tout ça devient très intelligible, merveilleux. L'ousia, c'est principe, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça le principe. Ce qui est premier, source, dans l'ordre de la détermination. Donc c'est une source selon la forme. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller dans l'ordre de la détermination. Première recherche, la découverte de l'ousia. Dès que je découvre l'ousia, je fais la distinction. Je redécouvre la distinction que Nietzsche refuse entre substance et qualité. Ça, c'est très important. Dès que je redécouvre l'ousia, tout de suite, la qualité, c'est la forme visible, en premier lieu. La qualité, c'est ce qui se manifeste. La qualité, c'est ce qui ennoblit. L'ousia, c'est la source de toutes les qualités. Elle est source aussi de la quantité. Elle est source de toutes les autres déterminations. Alors, je pourrais dire, mais c'est suffisant une fois que j'ai découvert l'ousia. Non, il faut aller plus loin. Parce que, de fait, la détermination n'est pas adéquate à l'être. L'être est plus, et le langage l'indique. Pierre marche, Pierre existe, Pierre est. Au-delà de la détermination, il y a l'exister. L'exister, c'est au-delà de toutes les déterminations. Il faut donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet état particulier de l'exister. Et alors c'est là la seconde recherche. Il faut découvrir ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Non pas ce qu'il y a de premier, mais ce qu'il y a d'ultime, la fin de l'être. Et c'est toute la recherche de l'acte. Et c'est ce que nous avions essayé de découvrir. Vous voyez les deux grands extrêmes de la philosophie première, l'ousia, l'énergeia. l'ousia et l'actus. Alors, là encore, vous voyez, Heidegger aime mieux employer les termes grecs energeia que acte, parce qu'il considère que acte, en fonction de son étymologie, n'est pas tout à fait pur. Que acte est quelque chose qui traduit mal ce qui a dû dire. Et donc, il vaut mieux dire energeia, c'est lié à l'œuvre. C'est lié à l'œuvre. Alors, c'est vrai que notre première expérience de ce qui a dû dire, c'est l'œuvre. Quand l'œuvre est achevée, vous vous arrêtez de travailler. Quand vous vous arrêtez de travailler, on vous dit, est-ce que votre travail est fini? Oui, voyez, c'est terminé. On voit très bien, le terme du travail, c'est l'œuvre. Alors, energeia montre ce qu'il y a de premier dans mon expérience habituelle. Le terme premier de mon expérience, c'est quand j'ai cessé de travailler. Dès que vous cessez de travailler, vous comprenez ce que c'est que l'acte. Quand vous avez produit une œuvre, hein. Si vous avez produit, si vous n'avez pas produit une œuvre, vous ne comprenez rien du tout. Vous cessez de travailler, c'est tout. La paresse. Mais la paresse n'est pas énergéiante. L'acte est lié à l'œuvre. Et entelekeia, c'est l'acte qui est lié à un état particulier où je suis uni à ma fin. C'est beau, vous voyez, ces deux termes grecs. Et ça, Heidegger a raison de revenir à ces deux termes grecs. Parce que ces deux termes grecs expriment beaucoup plus que acte. Acte, ça ne dit pas grand-chose dans mon langage habituel. Ça ne dit pas grand-chose. Tandis que energeia et entelekeia expriment deux extrêmes. Un terme extérieur, un terme l'expérience externe, l'expérience interne. L'expérience externe n'est parfaite que dans le travail. Et je termine mon expérience externe quand l'œuvre est achevée. Energeia. Et mon expérience interne est parfaite quand j'atteins le terme. Le terme intérieur, c'est mon bien. C'est quand je l'aime. C'est quand je suis dans un état d'amour. À ce moment-là, j'atteins le terme. Alors, les deux expressions qui vont s'aider mutuellement pour dépasser ce qui, à première vue, peut sembler une dualité, expérience interne, expérience externe. Les deux sont dépassés dans cet entelekeia energeia par l'être. Et je pourrais dire l'être c'est-à-dire l'être dans ce qu'il a d'ultime, l'être dans ce qu'il a de parfait, l'être au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors voyez, dès que je découvre l'être en acte, entelekeia, energeia, je comprends que parler du sur-être, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de sur-être. Il peut y avoir un sur-homme, sur-être. Il va y avoir du sur-être. Parce que qu'est-ce qui est au-delà de l'être? C'est quoi? C'est le non-être. Ben, c'est pas du sur-être. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'être? C'est toujours l'être. C'est un être dans un état supérieur, dans un état plus parfait. Un être imparfait demande d'être perfectionné dans un état supérieur. Et alors, je découvre progressivement par cette interrogation qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être, je découvre progressivement l'être en acte et l'être en puissance. Alors, comprenez bien ici, hein, dès que je découvre l'ousia, la substance, je découvre la qualité. Dès que je découvre l'être en acte, je découvre l'être en puissance. Alors ça, je crois que c'est important à noter. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné. C'est toujours très intéressant quand on est en face d'une division, vous savez bien. C'est de regarder ce qu'il y a de premier dans la division. Parce que ça nous fait comprendre l'âme de la division. Or, la division, c'est un procédé extrêmement important pour progresser au point de vue intellectuel. Celui qui ne divise jamais confond, fait de grosses confusions. Nicodème, il confond la naissance selon la chair et le sang et la naissance spirituelle. Comme beaucoup aujourd'hui confondent ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Et ils veulent identifier les deux. Alors ça, c'est les grosses confusions. Quand vous êtes en face d'une grosse confusion, vous ne pouvez avancer que si vous venez distinguer, que vous venez diviser. Et distinguer d'une façon intelligente. Je vous ai toujours dit, il y a deux manières de couper le poulet. Il y a une manière élégante qui est la manière organique, et puis avec un sécateur, une scie mécanique. Alors, la dialectique, c'est la scie mécanique. Et l'analogie, c'est trouver les divisions organiques. Vous voyez tout de suite si quelqu'un est intelligent à la manière dont il divise. Pas seulement à la manière dont il mange, mais à la manière dont il divise. Tout de suite. C'est un acte merveilleux de l'intelligence. Dès qu'on est en face d'une confusion, l'intelligence n'aime pas la confusion. L'imaginaire aime la confusion. Demeurons dans la confusion. C'est si merveilleux. Parce que là, on peut rester plané. On revient tout le temps. On n'a jamais l'impression de revenir. C'est merveilleux, la confusion. L'intelligence n'aime pas la confusion. Elle ne peut pas tolérer la confusion. L'intelligence divise pour saisir la vérité. Regardez la division que fait l'intelligence. Quand elle saisit l'ousia, elle divise l'ousia de la qualité. Quand elle découvre l'être en acte, elle divise l'être en acte de l'être en puissance. Ça, c'est magnifique. La dialectique, elle confond la qualité et l'ousia, l'être en puissance et l'être en acte. Un autre type de division. Ah oui, toujours. L'intelligence a toujours besoin de division. Mais elle prend un autre type de division. Alors c'est l'autre type de division de la dialectique, ce que j'appelle la scie mécanique. Vous voyez, le sécateur, quand vous avez compris ça, vous ne pouvez plus tomber dans la dialectique. C'est la scie mécanique, c'est le sécateur. Alors vous divisez quantitativement. Diviser quantitativement, c'est diviser de l'extérieur. Diviser qualitativement, c'est diviser de l'intérieur. C'est diviser organiquement. Je vous dis, on le voit magnifiquement pour un poulet. Le poulet est fait pour ça, qu'on comprenne la différence entre la dialectique et la dialogie. Vous voyez, parce que quand vous le divisez dialectiquement, et quand vous le coupez dialectiquement, et que vous le coupez organiquement, à moins d'être un... vraiment quelqu'un qui n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Un poulet divisé organiquement, c'est magnifique. Un poulet coupé dialectiquement, c'est effrayant. Ayez cette image, hein, alors bien encrustée. Alors, une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris que l'intelligence humaine divise de l'extérieur et l'intelligence humaine divise de l'intérieur. Ce qu'appelle l'intelligence, c'est l'intelligence qui divise de l'intérieur et de l'extérieur. Alors la fois prochaine, je répondrai à la question posée, mais je voulais reprendre pour que vous voyez bien la finalité de notre recherche sur le point de vue de l'acte et du bien.